Pour toutes vos informations durant la nuit, vous faites le 02 62 41 51 51. 02 62 41 51 51, c'est le numéro qui répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, bien évidemment. Il est minuit.
Merci d'écouter Europe 1, il est 21h. Avec Maëlle Hassani. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Des dizaines et des dizaines de personnes toujours portées disparues dans le sud-est de l'Espagne. C'est ce qu'indique le gouvernement espagnol 48 heures après le début des inondations dévastatrices. Le dernier bilan fait état d'au moins 158 morts. Des milliers d'habitants sont toujours privés d'électricité. Le Real Madrid annonce un don d'€1 million pour aider les victimes. L'Assemblée nationale repousse la proposition de loi du RN sur les expulsions d'étrangers délinquants. Deuxième échec de la journée pour les troupes de Marine Le Pen qui profitent aujourd'hui de leur niche parlementaire. Un peu plus tôt, les députés rejetaient l'abrogation de la réforme des retraites. Le nouveau Front Populaire, pourtant défavorable à la retraite à 64 ans, n'a pas soutenu la mesure pour ne pas offrir de victoire symbolique au RN. L'Assemblée où les débats sur les textes budgétaires se poursuivent et avant d'en connaître l'issue, le ministre de la Justice affirme déjà avoir obtenu des crédits supplémentaires. 250 millions d'euros selon Didier Migaud qui salue un bon arbitrage. Le garde des Sceaux avait menacé de démissionner s'il n'obtenait pas plus de moyens. Il ne nie pas les faits, mais assure qu'il ne s'en souvient pas. L'automobiliste qui a mortellement percuté Antoine Aleno, le fils du chef étoilé Yannick Aleno, en mai 2022 à Paris, est jugé depuis la mi-journée devant le tribunal correctionnel. Cet homme, déjà condamné à 6 reprises par le passé, se trouvait au volant d'une voiture volée et sous l'empire de l'alcool au moment du choc. Le jugement devrait être connu dans la soirée. L'appel à la prudence de Bruno Retailleau en ce soir d'Halloween. Le ministre de l'Intérieur demande aux policiers et aux gendarmes d'être très vigilants et pleinement mobilisés, mettant en avant de nombreux incidents ces dernières heures, comme des incendies de voitures ou des atteintes aux forces de l'ordre et aux pompiers. Un geste du gouvernement à 15 jours d'une mobilisation nationale des agriculteurs. Un contrôle administratif unique sera instauré dans les exploitations. Une seule visite par an sous l'autorité des préfets, annonce de la ministre de l'Agriculture. Une mesure de simplification réclamée de longue date par les syndicats. Les soldats nord-coréens envoyés en Russie sont prêts à combattre les forces ukrainiennes dans les jours à venir. Information révélée par le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken ce soir. Selon Washington, 8000 militaires de Pyongyang sont déployés dans la région de Koursk, partiellement contrôlée par les troupes de Kiev. 10 000 soldats seraient présents au total sur le sol russe. Le taux du livret A devrait être abaissé à 2,5% à partir du 1er février 2025. Estimation du président de la Caisse des dépôts aujourd'hui, même si le dernier mot revient au ministre de l'économie. Ce taux normalement indexé sur l'inflation est gelé à 3% depuis l'année dernière. Et puis en tennis, un set partout entre le français Hugo Humbert et l'espagnol numéro 2 mondial Carlos Alcaraz en 8e de finale des Masters 1000 de Paris-Bercy. C'est fini pour un autre tricolore, Arthur Fils, sorti par l'allemand Alexander Zverev en 3-7.
Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 21h03 et vous retrouvez La France Bouge avec Elisabeth Assayag.
Merci Maëlle Hassani, prochain point sur l'actualité à 22h. Dans un instant, La France Bouge et ça bouge, je peux vous le dire, dans l'univers du funéraire.
Bonjour, c'est Cyril Hanouna.
16h-18h, on marche sur la tête.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Il n'y a pas de partage de valeur ajoutée, il n'y en a pas.
Non mais attendez les gars,
ils servent à rien ces gens-là.
Tout est possible.
Je sais que tout est possible, j'ai travaillé avec beaucoup de politiques. On vous écoute, on est là et on a le droit, on n'est pas des délinquants, on a le droit d'exister.
Les gens n'en peuvent plus, mais les médias n'en parlent jamais. Monsieur Hanouna, merci beaucoup.
Là,
continuez sur cette lancée, je vous adore, je vous aime.
Europe 1, la radio libre.
On marche sur la tête.
On marche sur la tête. Cyril Hanouna.
Alors, à demain, de 16h à 18h sur Europe 1 et en replay sur le site et l'appli Europe 1.
Conto, c'est le compte pro avec lequel c'est fait.
Allô, je suis entrepreneur et...
Pour joindre votre conseiller, dites conseiller.
Conseiller.
Vous avez dit transférer.
Non, conseiller.
C'est noté, virement effectué.
Non.
Avec Conto, simplifiez vos finances pro. Joindre un conseiller 24h sur 24, c'est fait. Facturer en un clic, c'est fait. Demander un financement? Oui, c'est fait aussi. Ouvrez le compte pro qu'il vous faut en 10 minutes seulement sur Conto.com. Financement sous condition d'éligibilité. Modalité sur Conto.com.
Europe 1, la France bouge.
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission des entrepreneurs, des pépites françaises et des initiatives positives. La France bouge, c'est une heure ensemble pour se dire que tout est possible ici en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1 et ce soir, une journée particulière puisque c'est la veille de la Toussaint, jour où l'on célèbre les morts. Même dans ce domaine, il y a des entrepreneurs et des innovations. On démarre avec celui qui fabrique des cercueils en France depuis 1974. Bonsoir Olivier Bernier.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France Bouge, directeur général du groupe Bernier, groupe familial. Bienvenue à vous. On va vous découvrir d'ici quelques minutes. Une heure ensemble avec un coach. Le coach est un entrepreneur. Ce soir, c'est Julien Honard. Bonsoir Julien.
Bonsoir Elisabeth.
Ça va ?
Très bien.
Ça vous a pas trop effrayé quand on vous a proposé de faire une émission sur les morts ?
Non, en plus j'avais déjà entendu parler de la start-up.
Alors, bah dites-nous, la start-up c'est quoi ?
C'est In Memory.
Et alors c'est quoi In Memory ?
Alors, qui fait
le sommaire à ma place, j'adore.
Révolutionne un peu ce parcours du deuil et de l'accompagnement des défunts.
Vous avez raison, cette start-up a mis du numérique, notamment dans les obsèques. Elle a créé, on peut le dire, un nouveau modèle de pompe funèbre. Bonsoir Clémentine Piazza.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue à vous dans la France Bouge, fondatrice de In Memory. Et pas une France Bouge sans l'exceptionnel Benjamin Lévesque.
L'immortel, salut Benjamin. J'ai envie de dire même.
Sans l'immortel, très bien vu. Benjamin
Bonsoir
Lévesque.
Bonsoir tout le monde.
Ça va Benjamin ?
Ça va très bien.
Ça t'a pas angoissé hein, quand je t'ai dit on va faire ce thème ce soir ?
Mais non, mais l'an dernier on a fait sur les pompes funèbres.
Ouais,
et donc on est un petit peu habitué chaque année au même moment.
Très bien. Avec toi ce soir, on va prendre des nouvelles des membres de la grande communauté de la France Bouge. Justement, une personne qui était venue l'année dernière, je crois, cette émission.
Pile poil un an, c'est Alex Rançonnet, le cofondateur de Repos Digital. Et Repos Digital, c'est un service qui gère les comptes numériques des personnes décédées.
Ah ouais, très important. Et ben oui, on fait quoi de son compte
Meta,
Instagram, tout ça.
Ouais.
Et bien voilà, la France Bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1.
Europe 1.
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Bonjour à tous. Soyez bienvenus dans notre église en cette froide journée. Notre service débutera dans quelques minutes. Mais avant cela, je passe la parole à Mathieu, l'ami le plus proche de Gareth, qui souhaite dire quelques mots.
Gareth a toujours préféré les enterrements au mariage. Il disait qu'il lui semblait plus facile de s'enthousiasmer pour une cérémonie dans laquelle il était sûr de tenir un jour le premier rôle.
Quatre mariages et un enterrement. On a tous vu ce film, mais oui, parce que ce soir, on célèbre la mort, mais on va la célébrer avec le sourire, Benjamin. Le marché des obsèques, ça représente quoi, ce marché du funéraire ?
Eh bien, on peut dire que la mort est un business. On a eu 622 000 décès en France l'an dernier, selon l'INSEE. Alors, c'est un petit peu moins qu'en 2022, mais de façon globale, ça a tendance à augmenter avec le vieillissement de la population. Et le chiffre d'affaires dégagé par ces entreprises du funéraire, eh bien, il s'élève à 2,5 milliards d'euros selon la chambre syndicale du secteur.
Et pour en parler ce soir, un fabricant de cercueils, oui, depuis 50 ans, c'est le groupe Bernier.
Europe 1, l'invité de la France Bouge.
Vous êtes l'invité ce soir, parmi les invités, Olivier Bernier, directeur général de ce groupe familial Bernier. Nous, on vous connaissait pas, donc on aimerait vous connaître. On va passer un long moment ensemble ce soir. Mais d'abord, vous allez pitcher. Vous allez pitcher ce qu'est Bernier pendant une minute, même si le groupe a 50 ans. Êtes-vous prêt ? Est-ce que vous avez préparé votre pitch ?
Je suis prêt.
Allez.
J'ai préparé mon pitch.
Eh ben, bravo. 20 sur 20. Top chrono, Olivier Bernier. Le groupe Bernier, c'est quoi ? On vous écoute.
Donc, le groupe Bernier, donc moi, je suis directeur général. Donc de Bernier Group, donc c'est une société familiale basée en Dordogne qui a été créée donc en 1974. Donc nous en 2022, donc nous sommes rapprochés de notre principal concurrent, les artisans du funéraire, avec pour objet naturellement de proposer des services complémentaires au cercueil, tels que par exemple les capitons, puisqu'aujourd'hui nous disposons de notre propre unité de fabrication. Nous proposons également d'équiper les cercueils avec ce fameux capiton, avec également les accessoires qui vont avec. Nous commercialisons les urnes et ensuite nous proposons également à nos clients pompes funèbres de livrer le cercueil sur le lieu de la cérémonie. Donc nos clients sont des pompes funèbres de toute taille. Et ensuite, quelques chiffres. Donc Bernier, c'est 400 collaborateurs, Canopé, pardon, c'est 400 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 millions d'euros sur 22 implantations régionales. Et ensuite, voilà. Donc c'est en quelques chiffres. Et nous accompagnons, pardon, environ 260 000 familles, voilà, qui peuvent utiliser nos produits cercueils au travers de nos clients pompes funèbres.
Merci Olivier Bernier de vous être prêté à cet exercice du pitch, directeur général du groupe Bernier. Vous avez dit Canopé, donc pour qu'on distingue, c'est quoi
Voilà,
c'est Bernier ce soir qui m'intéresse.
Absolument,
quoi,
absolument. Je voulais simplement faire le lien donc avec la société avec laquelle nous étions rapprochés.
D'accord.
Et donc
que
voilà.
Vous venez de racheter, si j'ai bien compris.
Exactement, les artisans du funéraire.
Les artisans du funéraire, ce qui fait que l'entreprise a grossi. Vous êtes passé à 400 salariés.
Absolument.
J'ai tout compris. Comment ça va ?
Eh ben écoutez, les choses vont bien. Les choses
ça
vont
veut
bien.
Dire quoi? Les choses vont bien quand on travaille dans le milieu du funéraire et qu'on fabrique des cercueils.
Écoutez, moi je le vis depuis tout jeune, donc ce qui veut dire que le produit cercueil pour moi, eh ben naturellement est un produit sur lequel on est attaché à apporter une certaine qualité, puisqu'on sait que derrière nous avons des clients pompes funèbres, mais encore eh bien des familles endeuillées qui se doivent d'avoir un produit manufacturé de la meilleure des manières.
Alors c'est intéressant ce que vous nous dites ce soir, Olivier Bernier, des produits manufacturés. On parle de cercueil ce soir sur Europe 1.
Absolument.
Ça veut dire quoi?
Eh bien manufacturé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui nous utilisons du bois qui est principalement issu des forêts proches de nos usines. Ça veut dire que ce sont des bois naturellement sélectionnés et qu'ensuite nous attachons dans nos usines la plus grande des importances, à savoir en termes de fabrication, sur la qualité, puisque derrière nous savons qu'il y a une famille qui va se recueillir sur ce produit-là.
Donc ils sont réalisés en bois issu de scierie locale, si on peut dire ça comme
tout
ça.
À fait, oui.
Donc quoi, avec du chêne?
Principalement du chêne et du bois de pin également, oui.
Donc le bois local, c'est vraiment votre valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Oui. Il faut combien de temps pour fabriquer un cercueil? C'est quoi la chaîne les étapes les processus de fabrication?
On va dire qu'une usine à peu près produit à peu près 400 cercueils par jour sur un créneau
400
d'environ
400 cercueils par
sur
jour.
Sur un créneau d'environ 10 heures de travail à peu près.
Mmh. Voilà. Donc 400 cercueils par jour, 10 heures de travail. Quand vous dites que ça va bien, ça veut dire que vous avez vendu plus de cercueils que l'année dernière?
On suit, comment dire, les évolutions du marché, effectivement.
Donc ça veut dire quoi? Plus, moins
Comment dire, on est à peu près état à l'année dernière.
D'accord, c'est à peu près pareil. Vous avez beaucoup de concurrents de fabricants de cercueils ou vous êtes dominant sur le marché?
Nous commercialisons un certain nombre de cercueils aujourd'hui sur le marché, mais nous avons également des concurrents,
Des concurrents. Oui. Qui sont vos principaux clients?
Eh bien, nos clients sont les pompes funèbres. Donc les pompes funèbres, comme je disais tout à l'heure, de toute taille, ça veut dire qu'on vend aux petits menuisiers qui peut aujourd'hui encore pratiquer ce service-là aux pompes funèbres, ben voilà, de toute région de France et de tout environnement.
Donc,
voilà,
vous avez des clients qui sont très larges, très diversifiés.
Absolument, tout à fait, oui.
Ok, et vous avez augmenté les prix, ça coûte combien? Parce que une fois que vous les vendez aux pompes funèbres, eux ensuite vont, j'imagine, les revendre, enfin les revendre aux familles endeuillées. Comment on fixe un prix de cercueil en France en 2024?
Vous me posez une très bonne question. Nous, comment dire, nous sommes des fabricants. Donc, effectivement, nous avons un prix de matière, nous avons les prix de la main-d'œuvre. Et ensuite, on commercialise les produits à nos clients pompes funèbres qui, eux, ensuite, en font usage par rapport aux familles.
Mais vous êtes au courant? Est-ce que c'est comme avec la grande distribution et les industriels? Est-ce que vous vous mettez au point sur un prix? Comment ça se passe? Nous, on connaît pas. C'est ça que j'insiste là-dessus.
Comment dire, après les prix pratiqués par nos clients, effectivement, ce sont
ceux qui se débrouillent. Vous regardez?
Oui,
pas.
Oui, absolument. Non, du tout. Donc, comment dire, on vend un produit avec un service, et ensuite, l'entreprise de pompes funèbres fait son prix, comme il a envie de le faire.
Vous disiez dans votre pitch que vous êtes aussi, vous avez créé votre propre unité de fabrication de capitons. Alors oui. Moi, je vous avoue qu'avant de préparer l'émission, j'avais jamais pensé aux capitons d'un cercueil. Vous aussi,
non,
Julien?
Moi non plus, oui. Hein,
je pensais que c'était inclus dedans, moi, déjà.
C'est pas le cas. C'est quoi? Racontez-nous. Nous, on veut découvrir cet univers.
Donc le produit capiton, c'est un produit qui peut être fabriqué de différents tissus. Effectivement, nous avons une manufacture qui se situe dans l'Allier. Comme les cercueils, ça veut dire qu'on peut avoir des capitons.
Mais c'est quoi des capitons?
Pardon.
Le
capiton, c'est donc le tissu que l'on vient installer dans le cercueil. Pour pouvoir ensuite faire en sorte que le défunt soit présenté de la meilleure des manières
dans
le.
Il
peut être, comment dire, il peut être en satin, il peut être en coton, il peut être en velours, il peut y avoir tout type de matière.
Donc vous êtes fabricant de capitons, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une usine, il y a un atelier?
Absolument.
C'est quoi? C'est des couturières qui le font?
Tout à fait, oui, tout à fait.
Racontez-nous, s'il vous
plaît. Le process, comment dire, de la fabrication de capitons est fait par des couturières expérimentées. Ça veut dire qu'il y a un véritable savoir-faire. Nous avons des couturières qui sont à l'usine depuis plus de 30 ans.
Ah oui.
Et donc il y a une notion manuelle et un savoir-faire qui se transmet, puisque c'est pas évident de trouver des...
Et comment vous faites? Alors, il y a leurs enfants qui viennent travailler chez vous? C'est de génération en génération?
Mais comment dire, effectivement, quand une personne nous annonce son départ en retraite, il y a une anticipation qui se fait quelques mois, évidemment, auparavant, de façon à pouvoir transmettre ce savoir et faire en sorte que le poste soit repris de la meilleure manière.
Il y a combien de couturières de fabricantes de capitons chez vous?
Une trentaine de couturières.
C'est que des femmes.
C'est principalement que des femmes, tout à fait. Oui, ben oui, évidemment.
Pourquoi évidemment?
Parce que le savoir-faire, au niveau du tissu et c'est comme une maîtrise qu'ont principalement les dames.
Ah bon? Je savais pas. Moi, je l'ai pas, en tout cas. Et Benjamin, là.
Pas forcément.
Julien Honard, je vous vois écouter attentivement. Vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1, Olivier Bernier. Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, moi je connaissais pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous fabriquez principalement, voire exclusivement en France. Est-ce que certains de vos concurrents ont délocalisé finalement la fabrication de cercueils?
Je crois pas que ce soit le cas en France. Non.
Mais vous, c'est 100% français.
Il y a des cercueils d'importation.
Ah bon, mais pourquoi?
Certains produits, en termes de capacité de production sur les usines ne suffisent pas. Donc il y a quelques produits qui
sont. Donc c'est pour répondre à la demande.
Absolument.
Et c'est quoi ces produits qui viennent d'où?
Principalement d'Europe de l'Est.
D'Europe de l'Est. Voilà. Et on le sait, ça, quand on est la famille, qu'on a un cercueil français ou pas?
C'est pas caché, non, absolument.
Ah, d'accord.
Le gros du volume, malgré tout,
est
produit sur nos deux usines de Dordogne et d'Ariège.
Ah, très bien. Il faut rester en France, c'est important. C'est
exactement
pour ça que vous êtes dans La France Bouge ce soir. Donc, vous produisez des cercueils, groupe Bernier. Vous les commercialisez. Vous faites des capitons. Donc, je rappelle, c'est le tissu que l'on pose à l'intérieur des cercueils, des urnes aussi, des accessoires funéraires, c'est vous?
Nous commercialisons également les urnes, tout à fait.
Donc, vous les fabriquez ou?
On les fabrique pas.
Vous achetez.
Paraît-il, ça
vient de plus en plus, vous proposez des cercueils en couleur.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Eh bien, l'idée, de pouvoir personnaliser, nous sommes dans la personnalisation des obsèques et nous avons, proposé effectivement cette personnalisation sur les produits de couleur.
Mais pourquoi on vient vers cette personnalisation? C'est de plus en plus demandé de personnaliser son cercueil?
Absolument,
tout à fait. Qui demande?
Les familles dans un premier temps, et ensuite, naturellement, nous répondons aux demandes de nos clients pompes funèbres, oui.
Alors c'est quoi? Racontez-moi, on vous demande quoi?
Eh bien, on nous demande, des cercueils. Alors la personnalisation consiste principalement à peindre les cercueils. Et donc, ce qui fait qu'on a
Il n'y a pas de couleur prédominante,
mais effectivement, on a une cinquantaine de couleurs de coloris possibles.
Mais quoi comme couleur? Qu'est-ce qui prédomine? Nous avons, par exemple,
quel best-seller?
Il n'y a pas nécessairement de best-seller. Après, il y a peut-être des cercueils blancs, effectivement, qui ressortent un peu plus du lot, des cercueils noirs, laqués noirs. Il peut y avoir du jaune, il peut y avoir du vert, il peut y avoir du mauve.
Et puis, l'une de vos particularités aussi, c'est que vous proposez un configurateur en 3D.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on peut voir le cercueil, l'intérieur, le capiton. C'est moi qui en parle parce que vous en parlez pas, donc je le fais à votre place. Racontez-nous ce qu'est ce configurateur en 3D,
Le configurateur en 3D permet d'adoucir effectivement le choix du cercueil pour une famille.
Donc là, c'est quoi? C'est un logiciel, la famille s'approche,
qui permet aujourd'hui de...
Comme chez Ikea, quoi.
C'est un peu l'idée, ou comme les configurateurs automobiles où effectivement on prend le capiton qu'a choisi la famille dans le cercueil qu'elle aura choisi.
Benjamin, je crois qu'en termes de cercueil, on fait dans l'originalité en France.
Moi, j'ai trouvé une entreprise néo-zélandaise qui a décidé de construire des cercueils colorés sur mesure, mais alors là on n'est pas sur du blanc, du noir, du rouge. Là on peut choisir un cercueil par exemple en forme de camion de pompier ou encore un cercueil en forme de Lego et même en hot dog. C'est une manière de rendre cette journée un petit peu moins triste.
Oui, ça c'est sûr. Allez, vous restez avec nous autour de la table
aussi.
De la France Bouge. On reste dans cet univers de la Toussaint avec une entreprise qui a décidé de bousculer un peu cet univers bien ancré des pompes funèbres. C'est un peu poussiéreux, on peut le dire, mais nous, on a trouvé celle qui est en train de tout bousculer. La start-up s'appelle In Memory. Elle propose une alternative aux deux grands groupes prédominants du marché. La personne qui l'a fondée, c'est Clémentine Piazza, c'est vous. Vous aviez une très belle carrière dans le marketing. Et la perte de votre meilleur ami a fait que vous avez créé votre entreprise. L'entreprise s'appelle In Memory. On va vous découvrir, on a hâte de découvrir votre histoire, Clémentine. Mais d'abord, on va faire une petite pause en musique. On va écouter Marc Lavoine et Catherine Ringer. Qu'est-ce que t'es belle là sur Europe 1.
l'hiver. Quand tu dis, je crois.
Elisabeth Assayag.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette France Bouge. Ce soir sur Europe 1, on parle des enterrements. Mais oui, c'est la veille de la Toussaint. C'est pour ça que vous avez pu écouter un extrait du Requiem de Mozart. Nous sommes avec un groupe français, une réussite familiale. C'est l'un des rares fabricants français de cercueils. Nous sommes avec Olivier Bernier, le directeur général du groupe Bernier, qui est situé donc en Haute-Loire, c'est ça?
En Dordogne.
En Dordogne, mais je crois que vous avez trois sites, dont un Haute-Loire.
En Haute-Loire et un Ariège également.
Et un Ariège. On parle de cercueils. Est-ce qu'on utilise, Olivier Bernier, les mêmes cercueils pour les incinérations ou c'est des cercueils spécifiques?
Pour l'inhumation, on va plutôt utiliser des bois qu'on appelle durs et plutôt, comment dire, pour la crémation, des bois qu'on appelle des bois tendres.
Des bois tendres, parce qu'ils sont plus faciles à brûler.
Ça tout à fait, oui.
Justement, se faire enterrer ou incinérer, Louise Morin a posé la question ce matin dans les rues de Paris au micro Europe 1. Écoutez.
Pour moi, plutôt incinérer, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique dans le fait de disparaître. Et en regardant, je pense, les films ou en grandissant, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très beau de pouvoir laisser ses cendres après dispersées. Que ce soit, moi j'adore l'océan par exemple, donc j'aimerais bien aller à Hawaï ou quelque chose comme ça, me dire que je reviens un petit peu à la nature.
Je préférerais me faire enterrer, je pense que c'est les traditions dans ma famille. Mes grands-parents, mes grands-parents avant eux se sont tous fait enterrer, il y a un tombeau familial, donc je pense que c'est pour continuer la tradition familiale.
Incinérer, je pense. C'est assez simple, j'ai un peu, enfin, moi ça me panique un peu l'idée d'être enfermée dans un coffret et Du coup, je préférerais être incinéré, je pense.
Alors, je préfère être enterré parce que d'un côté, c'est mes traditions. Je viens du Liban, donc on est toujours enterré. Et de l'autre côté, je sens que c'est bien d'être enterré à côté de sa famille. Et j'aime bien être en chair et en os, même si je veux être en os éventuellement, il n'y aura plus de chair. Mais d'un côté, c'est les traditions, de l'autre, c'est la culture. De trois, c'est, bah, je trouve que c'est plus homogène que d'être incinéré. J'ai jamais été avec ça, mais je respecte tout.
Ça nous fait parler, hein, ce micro-trottoir, de ces propos recueillis par Louise Morin-Julien. Question très business, hein, finalement.
Ah mais moi ça m'angoisse, hein. Donc oui. je ne réponds pas à cette question.
Non, c'est pas ma question. Je vous voyais poser la question très business à Olivier Bernier. Ah, oui. Finalement c'est tout bon pour lui parce que si crémation ou pas, il y a un cercueil à la clé.
Il faut un cercueil. Et c'est une obligation légale. Alors en France c'est ça. Peut-être que dans d'autres pays européens c'est pas le cas.
Sur le plan européen, il faut un cercueil pour la crémation ou l'inhumation.
On va poursuivre avec une femme qui est en train de bousculer ce monde des pompes funèbres.
Europe 1, la France bouge.
La pépite. Oui, vous êtes une pépite, Clémentine Piazza. Vous avez 39 ans, c'est ça. Près de brillantes études à HEC, vous avez travaillé dans l'immobilier commercial.
Oui.
Hein, au sein des centres commerciaux, Unibail, hein, c'était
exactement.
Ça.
Exactement.
Ça a duré 8 ans.
Oui.
Et mais vous avez tout quitté pour entreprendre et je crois, peut-être que je me trompe, que le déclic de tout ça, c'est la perte, le décès de votre meilleure amie.
Alors, j'ai accompagné ma meilleure amie qui faisait face à un décès très difficile.
Ah d'accord, c'est pas elle.
Exactement.
Ah bah non, alors on est de bonne santé surtout, moi j'ai pas compris ça. D'accord, donc elle a fait face à un décès difficile et là vous avez vu qu'il y avait plein de failles, plein de manquements dans l'organisation des obsèques.
Exactement, oui, j'ai été marquée un peu par l'archaïsme des solutions proposées aux familles et par le parcours aussi des obsèques. Et donc j'ai décidé d'entreprendre pour être à la hauteur des attentes des familles et les soulager vraiment pour qu'elles puissent vivre ce moment de la perte et du deuil ensemble.
Pourquoi elles n'étaient pas ensemble avant ?
Elles étaient ensemble, mais elles étaient très chargées par les formalités administratives, stressées par la charge financière des obsèques. Et j'ai été marquée par le fait que, alors qu'on a le droit d'être triste et ensemble, on était plutôt chargées par toutes les formalités administratives et stressées par le prix des obsèques.
Pas de place pour la tristesse.
Pas de place pour la tristesse.
Et pour le recueillement.
Exactement.
Donc, vous dites quoi quand vous voyez ça ? On est en 2016, hein, c'est ça, 2015 ?
Exactement, on est en 2016, alors... D'abord, Inemori, j'ai créé un service d'hommage en ligne. C'est-à-dire que ce qui m'a d'abord frappé, c'est il a fallu que je communique à tout le monde les informations sur les obsèques. On n'a pas toujours envie de s'appeler dans ces cas-là quand on est triste. Donc c'est des appels qui sont assez laborieux et pourtant il est urgent de prévenir tous ceux qui ont connu le défunt pour que chacun puisse venir se recueillir et lui dire adieu. Donc je croyais que ça c'était assez archaïque. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement il y avait plein de messages d'hommage magnifiques, mais dispersés dans les téléphones des uns et des autres. Alors on a fait l'effort de les rassembler dans un livre d'or parce que c'était pour moi un acte de mémoire important, mais c'était difficile à faire, c'est un moment où on est très fatigué et donc j'ai voulu simplifier déjà ce premier temps de l'hommage en créant un service qui permet de créer un espace dédié aux défunts. C'est un espace en ligne qui est privé sur lequel j'ai très simplement d'abord les informations sur les obsèques et ensuite la possibilité de partager un mot de soutien, des photos, un souvenir, etc.
Donc ça, c'était la première partie de votre entreprise, de votre start-up, Clémentine Piazza, c'est-à-dire Inemori, service d'hommage en ligne.
Tout à fait.
Ça, on est en 2016.
Exactement.
Ça cartonne.
Oui, on a 5 millions d'utilisateurs de ce service. Ça fait beaucoup de sens pour les familles.
Pourquoi vous dites 5 millions d'utilisateurs ? Ça veut dire que même 3 ans après, on peut aller encore redéposer un
bien sûr.
Relire ce qui s'est passé.
Ah oui, alors ça, c'est très important.
Comment vit ce service ? Parce alors, une fois que les obsèques sont passées, c'est fini, j'ai envie de dire.
Cet espace, il est à la famille. Ça, c'est très important. C'est elle qui en a le contrôle, c'est sa propriété. C'est une œuvre collective qui ne nous appartient pas en tant que société. Alors, d'un point de vue légal, mais aussi symbolique. Donc, c'est la famille qui va décider de fermer cet espace ou pas, et en réalité c'est très peu fait parce que le deuil c'est quelque chose de collectif. Donc si je fais partie de la famille et que je le ferme, j'empêche d'autres personnes en deuil de venir se recueillir et de venir relire les messages. Ce qui est très beau dans l'espace d'hommage, c'est qu'on voit aussi vraiment toute la communauté du deuil. Bien sûr, il y a les proches, mais vous savez, il y a aussi les soignants, il y a les patients, il y a les anciens élèves, il y a les commerçants du quartier qui, grâce à Inemori, trouvent un espace pour s'exprimer, et à la fin c'est une vraie mosaïque de la vie vécue.
C'est un petit peu un cimetière numérique, finalement.
C'est un cimetière numérique avec la parole aux vivants, puisque là, le rite d'hommage, il est pour les vivants.
Le
et le cimetière, c'est aussi la maison des morts où viennent se recueillir les vivants. Mais j'ajouterai cette nuance. Ça, c'est vraiment le cœur des vivants qui parle.
Le cœur des vivants qui parle. Ensuite, vous dites qu'il y avait un gros besoin aussi du côté des obsèques. C'est là où In Memory prend plus d'ampleur. On est en 2021. Mmh. Et là, je peux vous laisser pitcher.
Allez, c'est parti
Clémentine,
on est dans la France bouge. Alors je vais vous raconter effectivement comment est-ce qu'on a réussi à faire bouger un secteur figé depuis des décennies. Alors concrètement, comment ça se passe quand une famille fait face à un décès? Elle se rend dans une agence de pompes funèbres, c'est souvent très froid. Vous êtes chargé d'émotions, évidemment, de stress. On vous assomme de formalités administratives et vous signez un devis de 5000 euros en moyenne sans vraiment savoir pourquoi. Donc c'est ça qu'on a voulu arrêter, on s'est dit c'est urgent que ça cesse. Et donc quand j'ai créé les pompes funèbres In Memory, j'ai d'abord fait appel à du bon sens en me disant à quoi devraient ressembler des pompes funèbres aujourd'hui. D'abord, ce qu'on a décidé d'arrêter, c'est la posture de commerçant. On n'a pas de promotion à la Toussaint, il n'y a pas de showroom de cercueil, il n'y a pas de conseiller commissionné à la vente. On est redevenu en fait un acteur du service à la personne et des soignants du deuil. Et ça se traduit par trois aspects. D'abord, on a réinventé les lieux où sont reçues les familles. On n'a pas d'agence sur la rue. On a des lieux qui sont toujours en étage, qui sont intimes, qui sont chaleureux. Donc on est présent à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, à Rennes aussi, et toujours en plein cœur des villes. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a clarifié l'offre. On parlait des cercueils tout à l'heure. Nous, on a fait un choix assez audacieux. On ne propose que deux formes de cercueils et pas un catalogue de 40 cercueils. On a sélectionné ces objets avec soin et aussi ça nous permet de les proposer à un prix juste.
Je vous arrête, on vous a laissé un peu plus d'une minute, Clémentine Piazza, fondatrice In Memory, parce que c'est passionnant ce que vous nous racontez. Vous êtes en train de bousculer un petit peu cet univers. Ce que je retiens, c'est le fait d'accueillir les familles, non plus dans une espèce de magasin...
En vitrine,
c'est quoi? C'est dans un appartement? C'est quoi?
Ça ressemble à un appartement. C'est entre l'appartement et le bureau. C'est-à-dire, on a les codes de la maison. Effectivement, on a des voiles, on a un espace bibliothèque. Donc, ça enveloppe, en fait, les familles qui sont très fragiles quand elles rentrent. Et on a voulu créer cet espace pour essayer de les apaiser et leur donner, du coup, la force d'agir. Parce que quand elles sont avec nous, on leur pose beaucoup de questions.
Comme question?
On leur demande déjà si elles veulent que ce soit une inhumation ou une crémation. On leur demande, vous pensez qu'il y aura combien de personnes aux obsèques? On leur demande leur rite. Les familles les connaissent plus ou moins parfois, donc on en parle aussi.
Vous avez une spécificité par religion?
Oui, bien sûr. On connaît bien les. Alors, toutes les personnes de l'équipe sont expertes dans chaque rite. On aime ces rites. Enfin, je veux dire, les rites funéraires, c'est des rites pour survivre à la perte, en fait. Ils sont très importants. Et on connaît bien sûr les rites de chaque religion et aussi les rites laïques. Et on est très sensible à les réaliser avec du sens pour que ça apaise l'assemblée qui s'est réunie.
Et en termes de prix, vous avez fait baisser les prix. Si vous prenez que deux cercueils au lieu de 40.
Oui, on a fait baisser les prix. La question du coût d'achat du cercueil était une bonne question tout à l'heure. Effectivement, c'est les pompes funèbres qui choisissent le prix des cercueils. Aujourd'hui, nous, on est deux fois moins cher sur les cercueils. Et en fait, parce qu'on a décidé d'appliquer une marge moyenne par éthique, en fait. Mon point de vue, c'est que la marge sur les cercueils aujourd'hui en France, elle est trop importante.
Et elle est de combien?
Je sais qu'elle est supérieure à 70% dans les groupes qui dominent le marché. Ah ouais. Et c'est là où nous, on a voulu se remettre en ligne avec une marge moyenne de sociétés de services, très simplement.
Julien, on a...
Sur le cercueil, en effet, j'ai lu des exemples. Cercueil acheté 200 euros, vendu 2500. C'est des marges qui sont plus élevées que celles du luxe. Probablement parce que le produit est obligatoire et que malheureusement,
le choix,
les familles sont en détresse.
Et il y a une situation de détresse, de vulnérabilité. Donc c'est aussi pour ça, on n'a pas envie de négocier un cercueil quand on vient de perdre un proche.
Il y a un aspect qui est très particulier en fait dans notre métier, c'est l'urgence aussi. C'est-à-dire que la loi française prévoit qu'on a 6 jours maximum pour organiser des obsèques. C'est la loi. Donc quand on fait face à l'urgence, qu'en plus on est fatigué, je veux dire parfois on vient d'accompagner une personne des mois à l'hôpital, c'est ces familles-là qu'on reçoit, l'énergie pour comparer, pour résister,
c'est pas le moment.
À avoir.
C'est pas le moment. Il y a beaucoup de personnes qui préparent leurs obsèques en avance, ou vous voyez des familles qui arrivent et qui débarquent, ou en général c'est quand même assez préparé. Comment c'est en France? Quel est le tableau aujourd'hui des familles endeuillées?
Je trouve que ça pourrait être plus préparé. Je pense que là, on fait face au tabou de la mort. Plus c'est préparé, plus c'est apaisé, plus les proches se sentent soulagés. Donc c'est important de partager en famille ses volontés funéraires. La question de l'inhumation ou de la crémation, si on n'a pas la réponse, c'est terriblement inconfortable.
Et c'est souvent le cas?
C'est pas souvent le cas sur ce sujet-là, parce qu'il y a soit le rite de la famille, religieux laïque, où ça a quand même été évoqué. Mais oui, ça, on pourrait aller plus loin. Si par exemple, je prends le rite chrétien, est-ce que ça doit être une messe ou est-ce que ça doit être une bénédiction? Là, les gens n'en savent rien, ça n'a pas la même signification.
Alors, comment vous les conseillez?
Alors, d'abord, on les écoute, c'est fondamental, et on prend le temps de les écouter pour qu'elles aillent jusqu'au bout de qu'est-ce qui leur semble être juste. C'est pas des questions faciles qu'on pose. Donc, le temps, c'est très important dans notre accompagnement.
Et il faut prendre du temps, et là, il faut être rapide. Parce que dans certains rites, il faut enterrer dès le lendemain. Hein.
Exactement. Alors, ces rites-là, généralement, la famille a choisi que c'était ce rite. Et à ce moment-là, on est à la hauteur du rite, et donc c'est notamment le rite juif, par exemple, où ce qui est très important, c'est d'enterrer vite. Et nous, on a des équipes renforcées pour réaliser ce rite, parce que être à la hauteur de ce rite, c'est être rapide.
Bien sûr.
Donc là, dans ces cas-là, on a moins ce temps de la discussion, parce qu'on sait que l'essentiel du rite, c'est la rapidité. En revanche, quand par exemple, on va préparer une cérémonie laïque, les rites laïques en France, ils sont en train de se définir.
Mais
exactement,
oui.
Tout est à inventer. On n'est pas dans la situation du mariage, on n'a pas un an devant nous. Là, on a toujours deux rendez-vous. Ça, c'est une spécificité chez InMemory. D'abord, un premier rendez-vous très organisation. On réserve les lieux, le crématorium, le cimetière. On passe les appels. On donne les dates aux familles. Elles ont le parcours qui est très clair. On a un deuxième rendez-vous. Là, on prend du temps. Nos maisons jouent un joli rôle dans cette discussion parce que les gens se sentent un peu à part aussi. Et là, on leur dit, alors, on va réaliser ce rite ensemble. Et on a des célébrants pour les communautés laïques qui sont formés à la prise de parole. Ça, c'est aussi une spécificité chez InMemory. Le métier d'accompagnant, c'est-à-dire, enfin, on appelle ça accompagnant chez nous, mais de conseiller funéraire, c'est pas le même que le métier de célébrant. Pour moi, c'est pas normal que ce soit les mêmes personnes.
Et c'est les mêmes personnes dans les autres, dans les
métiers. C'est toujours les mêmes personnes qui font tous les métiers. Alors que c'est des métiers, soit c'est un métier de pédagogie, d'intimité, de créer la confiance.
Vous devez les déranger, Clémentine Piazza, les dinosaures.
Oui, on les dérange. Après, mon souhait, c'est que les standards changent. Si jamais ça crée
d'autres idées,
une autre façon de faire et plus de temps passé, tant mieux.
Julien?
Oui, Léna. En fait, Clémentine, elle incarne avec douceur et empathie son métier. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elle a beaucoup de courage de se lancer dans cette activité.
Hyper courage.
Ouais, parce que elle le fait comme une entrepreneur. C'est-à-dire que elle est allée étudier étape par étape ce qui se passe. Elle allait se confronter au deuil, à la mort, etc. Et ben elle s'est dit bah tiens moi comment j'aurais aimé que ce soit mais c'est très courageux parce qu'il faut vraiment se confronter à ça et j'ai écouté dans un podcast que tu disais que la décision d'aller dans ce secteur d'activité avait été pour toi très difficile à prendre.
Exactement parce que tu as raison, je savais que je le ferais comme une entrepreneur donc en vivant chaque étape et donc j'ai eu peur, j'ai senti que c'était important qu'il y ait un autre acteur, j'ai senti que ça pouvait pas durer comme ça, j'avais une forme de colère, une envie que ça change pour les familles. Et j'avais peur aussi. D'abord, j'avais
peur de quoi, Clémentine?
De prendre soin des défunts. On réalise les toilettes mortuaires. Alors, sauf quand elle est rituelle, dans ces cas-là, on fait appel aux associations.
Vous l'avez fait déjà?
J'ai assisté à ça, bien sûr. Et j'ai un point de vue là-dessus comme un entrepreneur. C'est-à-dire, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est un recueillement réussi? C'est quoi, finalement, quand on va dans la chambre mortuaire de l'hôpital, quand on va dans la chambre funéraire, c'est des lieux qui sont froids. C'est terriblement froid. Et qu'il faut rapporter de la chaleur, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, la première réponse, c'est qu'il faut que le défunt se ressemble. Il faut que dans la façon dont on a réalisé la toilette, qu'on a apporté de la couleur, qu'on l'a habillé, il faut que chacun retrouve son grand-père, sa grand-mère. Parfois, j'entendais, elle a trop été maquillée. Ça, c'est pas possible parce que déjà, c'est dur. On peut pas être gêné en plus que ce soit dur. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Chez InMemory, toutes nos équipes, elles ont une petite valise roulante et on arrive avec nos éclairages, nos nappes, nos enceintes et quelque chose pour aussi mettre des photos si c'est le choix de la famille.
C'est-à-dire autour du cercueil.
Parce que la chambre mortuaire de l'hôpital, elle est trop froide.
Vous la customisez, quoi.
Exactement, parce qu'on peut pas avoir un plafonnier blanc on se recueille.
C'est le cas.
On mérite tous mieux. Donc du coup, on s'est dit, comment je l'aurais fait moi-même? Je l'aurais fait avec mes petits lampions, chaleureux, etc. Donc c'est vrai que j'avais peur aussi de recevoir la douleur dans mes lieux. Bon, après, finalement, la vocation reprend le dessus, c'était assez...
Mais vous prenez du plaisir à travailler dans cet univers des morts?
Je parlerai plutôt de vocation. C'est-à-dire, je me sens complètement à ma place et je me vois pas faire autre chose. Je sais pas ce que je pourrais faire d'autre après avoir fait ça.
Le soir, vous arrivez à déconnecter?
En fait, tout est lié.
Quand vous rentrez chez vous?
En fait, dans la vocation, j'en parle à mon compagnon, ma famille sait que je fais ça. C'est des choses qui se vivent, je pense, comme les soignants de l'hôpital. Alors j'ai de la chance hein, parce que j'ai des personnes autour de moi qui acceptent de m'écouter sur des sujets lourds. Mais je pense que là la vie elle est poreuse en fait. C'est un tel métier. Les gens ont besoin d'en parler aussi quand on parle du tabou. Mais moi je le rencontre pas le tabou parce que quand on fait ce métier dans les dîners où jamais personne ne parle de la mort, ben du coup on en parle. Et les gens en ont besoin en fait. Donc c'est
vous brisez en quelque sorte le tabou, Clémentine Piazza.
Oui, alors on est société à mission, c'est un choix que j'ai fait et notre mission dans nos statuts, c'est de libérer la parole autour de la mort parce qu'on pense que mieux en parler, c'est mieux s'y préparer, mieux la traverser et ensuite mieux se soutenir ensemble sur le chemin du deuil.
C'est extraordinaire ce que vous nous racontez. Nous sommes conquis, Clémentine Piazza, fondatrice de In Memory. Vous restez évidemment autour de la table de La France Bouge. On va prendre des nouvelles dans un instant de Repos Digital, mais on a encore quelques questions à vous poser, hein, Clémentine, et aussi à Olivier Bernier, du groupe Bernier. Mais d'abord, on va encore écouter un petit peu de musique. On va écouter Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. C'est demandé souvent en enterrement, Daft Punk?
C'est pas le plus fréquent.
C'est quoi le plus demandé? C'est
Il y a une très belle chanson de Grégoire qui s'appelle Chanson pour un enterrement, qu'il a écrit parce qu'il a fait face à deux décès difficiles et douloureux et qu'il a cherché, qu'il y avait beaucoup de chansons en anglais mais pas en français. Du coup, il s'est dit bah tiens, je vais en écrire une. Et ça a eu un succès sur les réseaux. Les gens se sont passés cette chanson pour qu'on puisse avoir une chanson en français qui met les mots sur ce que les familles sont en train de vivre.
À tout de suite, Clémentine Piazza sur Europe 1.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Williams, Get Lucky sur Europe 1. Et à noter vos rendez-vous Europe 1, à ne pas rater les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. C'est le samedi et le dimanche de 14h à 15h. Chaque week-end, vous pouvez retrouver Pierre Bellemare pour une émission inédite réalisée à partir des archives sonores exceptionnelles d'Europe 1. Évidemment, vous pouvez les réécouter sur Europe 1.fr.
Europe 1, 21h, 22h, Elisabeth Assayac.
When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Alléluia, Jeff Buckley. Mais oui, on écoute Alléluia qui nous... Il paraît que c'est une des chansons mythiques
des enterrements.
Bah oui, hein, c'est un peu le cas aussi. Clémentine Piazza, vous êtes la fondatrice d'InMemory ce soir.
Oui, on l'entend
pas mal. Ouais. Nous parlons des morts. Ce soir, on célèbre les morts à travers le marché de ce monde funéraire. Nous sommes avec Olivier Bernier, le directeur général du groupe Bernier, entreprise familiale. Vous travaillez avec quoi? Avec qui? Avec votre sœur, je crois?
Alors, je travaille avec ma sœur et mon cousin Laurent, effectivement.
Et c'est vos parents qui ont fondé l'entreprise?
Donc, c'est mon père et mon oncle, oui, tout à fait, qui ont créé la société en 1974.
Et vous continuez à travailler au-delà de votre sœur et votre cousin? Il y a d'autres personnes de la famille qui vous ont rejoint?
Eh bien, nous avons chacun nos conjoints qui travaillent également avec nous. Et nous avons également une cousine qui nous a rejoint.
Et vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, des enterrements de plus en plus personnalisés, des enterrements aussi, enfin, un univers de plus en plus féminin. D'ailleurs, Benjamin, il y a peu de femmes quand même dans le secteur du funéraire.
Oui, on compte au total 18 000 salariés, dont seulement 29% de femmes. Et alors, la moitié des salariés ont au moins 10 ans d'ancienneté.
Bon, on en a une ce soir parmi nous, c'est Clémentine Piazza, la fondatrice d'InMemory, qui est en train de bousculer tout ce monde du funéraire. Vous nous avez emporté avec vous tout à l'heure, vous êtes lancé, vous parlez de vocation et non pas d'un métier. On dirait comme si c'était une mission pour vous de faire ça.
Oui, et vous parliez des personnes qui font ce métier. Ça a été une vraie question quand j'ai démarré mon entreprise. Je me suis dit, bon ben, ceux qui font ce métier déjà par vocation, j'aimerais qu'ils me rejoignent. Et puis j'étais assez convaincue qu'il y avait des vocations enfouies. Je me suis dit, si jamais on crée une jolie marque qui fait du sens, il y a des personnes qui vont oser nous rejoindre. Et c'est une vraie mission en tant que patronne de raconter combien ce métier il est essentiel et il doit être mis en lumière. C'est pour ça qu'on a créé une académie interne qui s'appelle l'Académie InMemory, pour rassurer ces personnes qui hésitent à se lancer.
À franchir le pas.
On les accompagne pendant 3 mois. On leur explique bien sûr la réglementation, le parcours des obsèques. Et puis, on a aussi nos formations spécifiques sur quelle est la bonne posture face à une famille en deuil, comment réagir face aux émotions, comment prendre la parole quand on célèbre une cérémonie. Voilà, c'est un pari gagné. Je suis très heureuse de ça. Aujourd'hui, il y a 60% des personnes qui sont accompagnants chez nous, qui n'étaient pas conseillers funéraires avant. Et je crois que cette mixité de parcours, c'est souvent des personnes qui viennent du soin, des personnes qui viennent aussi de l'hospitality. C'est ça aussi la richesse de nos équipes que perçoivent les familles.
Donc une centaine de personnes aujourd'hui, centaine de salariés.
Exactement.
Et c'est un métier où on gagne bien sa vie ?
C'est un métier où on gagne bien sa vie. En tout cas, chez InMemory, on a souhaité que les salaires soient plus importants que la moyenne du secteur pour traduire l'engagement des équipes. C'est un métier quand même incroyable. Je veux dire, on est dans les cimetières... quand il fait très froid, on est dans les églises,
il y a une forme de pénibilité.
Il y a une pénibilité à la fois physique, parce qu'on est debout, on tient bon, et puis on tient bon aussi face aux émotions qu'on reçoit.
Ouais, psychologique, ouais.
Et bien sûr, un engagement de cœur, d'empathie, qui consomme de l'énergie aussi. Donc je voulais être à la hauteur de cet engagement aussi à travers les rémunérations.
Julien Honneur, vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1.
Oui, alors le métier de... qui fait la toilette des défunts, donc c'est le thanatopracteur, c'est
ça, alors, ou thanatopractrice.
D'accord, alors on connaît peu ces métiers, racontez-nous peut-être qui sont ces gens, est-ce que justement c'est bien rémunéré, parce que j'imagine que c'est quand même un métier très difficile.
C'est un métier très difficile, c'est souvent des anciens soignants, là vraiment je dirais que presque 100% des thanatopracteurs ont été infirmiers à l'hôpital, ont été dans le soin. C'est important. Pour moi, ce moment-là, c'est vraiment aussi le moment de la transition entre le milieu du soin et le monde de l'adieu. c'est un métier important hein, parce qu'il permet la dernière conversation avec le défunt. J'ai été particulièrement sensible, voilà, au choix des personnes qui réalisaient ces toilettes pour nos familles. Oui, moi je vois, je vois tout le monde en fin de processus. Alors, souvent on me dit, mais comment tu recrutes l'empathie? Ce qu'on fait, c'est que une fois que on se dit que ça peut marcher avec quelqu'un, on organise une journée de vie ma vie qui a deux vertus. D'abord, c'est est-ce que cette personne se sent capable de faire ce métier?
Oui, parce que là, on est sur la théorie et la pratique. Hein.
Exactement. Donc, c'est pour moi important, je veux dire, de lui offrir cette possibilité, surtout quand on recrute des gens qui sont pas de ce métier. Et puis, pour nous, ça permet de voir en direct le choix des mots d'une personne. On l'accompagne en rendez-vous famille. Elle est en observation, bien sûr, mais elle assiste à une cérémonie et j'écoute comment est-ce qu'elle reformule ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elle met des mots sur les émotions, est-ce qu'elle a bien une posture d'écoute active, d'empathie.
Mais tout ça, vous l'avez appris où, vous?
C'est inné? En fait, je pense que l'empathie, on a l'impression que c'est magique, c'est une compétence. Alors oui, j'ai cette compétence. Et là, ce qu'on fait chez InMemory, c'est qu'on a un vrai protocole pour identifier cette compétence. Alors malheureusement, dans les CV, il y a rarement écrit empathie, parce que l'entreprise n'a pas
créé. Et puis c'est moins valorisé. En
fait. C'est moins valorisé. En fait, ça s'identifie. Et donc, oui, j'ai cette compétence et mes équipes l'ont. Et je sais aussi l'identifier dans un processus de recrutement.
Est-ce qu'il y a une famille ou un enterrement qui vous a particulièrement marqué, Clémentine Piazza? Vous êtes la fondatrice InMemory ce soir sur Europe 1.
Oui, bien sûr. Enfin, on est habité hein, par ces cérémonies et on.
Vous assistez à toutes les cérémonies?
J'assiste pas à toutes, je peux pas parce que on se développe rapidement. Mais j'ai installé un rituel parce que justement, je voulais pas être déconnectée. Je me suis dit bon bah en fait à la fin, je fais ce métier pour ce métier, mais
pas faire que du business.
Comment ne pas être que patronne en charge du recrutement, en charge des process, etc. Bien sûr, c'est important. Mais et donc on a créé un rituel qui s'appelle le récit de cérémonie. Donc on a un outil de communication collectif. Enfin classiquement, ça s'appelle Slack. Et chaque accompagnant, après avoir accompagné la cérémonie, raconte comme il le souhaite. Alors parfois, il va particulièrement parler du défunt, parce qu'il y a des cérémonies où le défunt est tellement présent, vous savez, ses personnalités, enfin, vraiment, les gens sont là, quoi, on est entre deux mondes, et c'est vrai qu'il y a parfois des présences incroyables, donc on va beaucoup entendre parler de la vie qui a été vécue. Parfois, ça va être de la famille, parfois, ça va être d'un geste d'hommage, comme écrire sur un cercueil, ça c'est fait quelques fois. Et donc, c'est ce qui nous permet d'abord de dire merci aux équipes, parce que elles nous racontent leur quotidien. Et c'est un quotidien qui mérite du temps pour être raconté. Et moi, ça me permet du coup de savoir à qui on a dit adieu.
Et alors, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué? Que vous pensez là ce soir?
Oui, il y a une anecdote. C'est moi qui ai répondu au téléphone. Il y a une dame qui me dit, mais oh, vous savez, on est très pudique, on veut pas de cérémonie. Alors, très bien. Et puis, moi, je suis à l'écoute de ce qu'on me dit. Mais je dis, ok, s'il y a pas de cérémonie, mais... Est-ce que les autres ont besoin d'un temps d'adieu? Et puis elle me dit, en fait, je crois qu'on aimerait bien qu'il y ait de la musique. Alors je dis, mais vous savez, de la musique, c'est une cérémonie, si c'est ça qui compte pour vous. Et donc on est parti de là, et à la fin, c'était au crématorium, on a installé 10 chaises, et la famille était là, et il y avait un fond musical, et chacun racontait un souvenir avec le défunt, et nous on était simplement en retrait à permettre ce moment. Et ça, je me suis dit, waouh, on est... En fait, c'est ça notre métier. En fait, c'est que chacun se sente fier de l'adieu
Et qu'il soit et que ça corresponde à ce que la personne voulait et pas par rapport à une norme particulière.
Exactement.
Donc là aussi, on est dans le sur-mesure et dans le personnalisable pour chacune et chacun. Vous restez autour de la table de la France Bouge. On pourrait vous écouter des heures, Clémentine Piazza. On va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté de la France Bouge parce que c'est ça sur Europe 1. On aime bien savoir ce qui s'est passé depuis leur passage ici sur Europe 1.
La France Bouge. Que sont-ils devenus?
Benjamin, ce soir, il s'agit de Repos Digital.
Oui, Repos Digital, c'est un service qui permet bien de gérer la vie numérique des personnes décédées. Donc, c'est une technologie qui va bien rechercher tous les comptes en ligne du défunt grâce au numéro de téléphone et à l'adresse mail et en même pas 20 secondes. Et une fois que les comptes sont retrouvés, bien Repos Digital va faire en sorte de supprimer les comptes, donc Facebook, Instagram, compte Netflix ou Amazon. Et alors, pour les sites de rencontre, là, il les supprime, mais sans en parler à la famille.
Ah oui?
Oui.
Sérieux? Bonsoir, Alex Ronsonnet.
On va éviter les histoires.
Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Elisabeth.
Ça va bien?
Ça va super, et vous?
Bah, merci super. Cofondateur de Repos Digital. Je savais pas que vous, sans prévenir la famille, vous supprimiez les comptes des applis de rencontre. J'avais oublié cette histoire.
Ouais, c'est vrai. Alors, on a effectivement une section qu'on appelle les comptes sensibles, hein, sites de rencontre. Il y a aussi les sites pour adultes. Et dans notre technologie de recherche, on évite d'afficher cette typologie de compte. L'idée, c'est vraiment de protéger le souvenir, la vie privée de la personne, et non de faire découvrir ce qu'il ou elle aurait pu
ce qui appartenait à son jardin secret. Vous avez mis au point de technologie, c'est ça, parce qu'on connaît pas forcément les mots de passe et les comptes, et puis parfois on n'a pas du tout envie d'aller s'immerger là-dedans. Donc c'est vous qui vous occupez de tout ça?
Ouais, tout à fait. En fait, on a développé une intelligence artificielle. Le terme est à la mode, alors utilisons-le pour retrouver les comptes d'un défunt sur Internet. Ça marche aussi pour les vivants. Je vous en parlerai tout à l'heure probablement. Mais l'idée, c'est qu'avec le numéro de téléphone du défunt et son adresse email, on peut trouver ses comptes sur Internet grâce à notre technologie. Mmh. Et ça, c'est la première étape. Hein. Je vous en parlais l'année dernière, mais la famille a très peu souvent connaissance des comptes du défunt. Mmh. Et donc, pour se faire accompagner, c'est vraiment la première étape. Hein, lui afficher tous ses comptes et après lui demander ce qu'elle veut en faire.
Et depuis votre passage en dernier, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait évoluer votre entreprise, Alex Ransonnet?
Eh bien, écoutez, l'émission, nous, c'était une très belle mise en lumière, en tout cas, sur notre mission, notre entreprise. Beaucoup de curiosité et aussi du business. D'abord, sur Internet, on a plusieurs dizaines de familles qui sont venues nous voir, qui ont fait appel à notre service, qui avaient beaucoup de questions sur ce qui était possible de faire avec le compte de l'un de leurs défunts proches. Typiquement, est-ce que je vais pouvoir récupérer l'argent, les photos, les vidéos, supprimer le Facebook que j'arrive pas à supprimer depuis un an? Et donc, on a pu accompagner ces familles-là. Et puis, de l'autre, si on parle de la partie vraiment business, là, on a le téléphone qui a beaucoup sonné suite à l'émission, pour être honnête. Et donc, beaucoup de nouveaux partenariats.
Comme avec qui, les partenariats, avec qui?
Avec des grands acteurs du funéraire, mais surtout beaucoup d'agences partout en France. On était sur une centaine de distributeurs l'année dernière au moment de mon passage, et là on se rapproche dangereusement des 1000, on est à peu près à 800.
Bravo.
Aujourd'hui, donc c'est une belle croissance.
Formidable. Ouais. Et puis vous vous occupez maintenant des vivants aussi, pour leur permettre de prévoir leur fin de vie numérique.
Exactement, Elisabeth. On a 500 000 contrats obsèques, hein, qui sont souscrits chaque année. L'âge moyen, c'est 62 ans. À 62 ans, c'est des personnes qui sont connectées. J'entends par là que tous les gens qui ont 62 ans dans mon entourage, 60 ans par là, ont des comptes sur Internet. Et donc, il y a un besoin. Ils ont besoin, ces gens-là, d'être accompagnés sur aussi ce qui adviendra de leur fin de vie numérique. Voilà, qu'est-ce que je veux faire de mon compte Facebook après mon décès, de mon argent sur Internet, de mes boîtes mail, etc. Et donc, nous, on les aide, justement prévoir ça. L'idée, c'est toujours la même chose. On vous aide à retrouver, mais de votre vivant, tous vos comptes sur Internet. Vous nous donnez vos volontés. Vous nous renseignez un contact légataire, c'est-à-dire une personne de confiance de votre entourage, qui sera là si vous, demain, vous disparaissez. Puis, ça sera notre interlocuteur ou interlocutrice. On s'occupera donc de discuter avec cette personne-là pour exécuter vos volontés le moment venu.
Merci, Alex Ransonnet, cofondateur de Repos Digital. On était ravis de prendre de vos nouvelles ce soir sur Europe 1. C'est déjà la fin de cette France Bouge. Ça passe vraiment trop vite. Vous nous avez donné le sourire, même si le thème était, on peut le dire, un peu...
glauque.
Sur le papier. Un peu compliqué, peut-être un peu triste. Mais on était ravis de vous avoir, Olivier Bernier, directeur général du groupe Bernier. Merci d'être venu ce soir dans la France Bouge.
Merci, Elisabeth.
Clémentine Piazza, merci. Bravo pour votre entreprise, fondatrice de In Memory. Julien Honard, merci. D'être venu ce soir. Je sais qu'il n'y avait pas trop de conseils parce qu'elle est bien présente, Clémentine Piazza. Vous voulez ajouter quelque chose?
Non. On n'a pas pu parler de ses concurrents, un peu les dinosaures, mais je pense qu'on a bien compris sa différence.
On a bien compris sa différence, et puis on voulait surtout parler d'elle. Merci à vous. Benjamin, on se retrouve lundi pour une prochaine France Bouge. Dans un instant, c'est le journal de 22h. Et tout de suite après, les années top 50 qui nous font vibrer avec Ombline Roche. Bonsoir Ombline.
Bonsoir Elisabeth. Les années top 50 avec des citrouilles, des araignées et des sorcières.
Ah oui, c'est vraiment jamais. Hein.
C'est Halloween aujourd'hui, jeudi 31 octobre, donc on va écouter Rockwell avec Somebody's Watching Me, Ray Parker Jr., la musique du film Ghostbusters, et puis alors petit pas de côté avec la salsa du démon,
ah oui
le grand orchestre du Splendide.
Ah mais je m'en souviens, c'était tellement...